L'assurance mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers grâce à Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Venir en aide aux autres, sauver des vies et avoir une bonne qualité de vie. Ce sont les trois motivations citées par des jeunes engagés dans des études de médecine à qui l'on demandait récemment de donner justement ces raisons de leur inscription dans ce cursus particulier. Singulière, hein, ces années de médecine et plutôt éprouvante à lire les récits des étudiants épuisés, happés par l'essoreuse de la première année commune aux études de santé. Une passesse dont les règles pourraient d'ailleurs changer dès la prochaine rentrée dans certains établissements. Première année, couperet, puisque seuls 15% des inscrits seront admis en deuxième année. Au total, 4 étudiants sur 5 n'iront pas au bout du parcours, échoueront. Alors, les vocations résistent-elles à l'immersion dans le monde hospitalier ou à un souhait de spécialisation non exaucé? Comment réagit-on justement cet aspirant médecin quand il est confronté pour la toute première fois à la maladie incurable ou à la mort? Sélection, bourrage de crâne bien fait, numerus clausus. Et pour ces élèves brillants, après 10 années entre cours, hôpital et stage, que reste-t-il de leur rêve de devenir médecin? Alors, pour essayer de le savoir, hein, aujourd'hui, Priorité Santé donne la parole à des étudiants en médecine. Sarah Gaston-Dreyfus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en cinquième année à l'Université Paris Sud 11. En studio avec nous aussi, issu de cette même université, Franck Roland, bonjour.
Bonjour.
Étudiant en sixième année, également vice-président chargé de la réflexion éthique à l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Également autour de cette table, Marie Cuisin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en première année d'école d'infirmière après avoir abandonné vos études de médecine. Et puis avec nous, docteur Asmaou Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interne au service des explorations fonctionnelles neurosensorielles au centre hospitalier de Gonesse, dans le Val d'Oise. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Et bien sûr, notre numéro, le téléphone, pour témoigner, pour poser vos questions. C'est le 33 84 22 75 75. Et pour commencer cette émission, tout simplement, un petit tour de table, une même question, aussi direct que simple. Pourquoi avoir voulu devenir médecin, Sarah Gaston-Dreyfus?
Pourquoi? Parce qu'au début, je travaillais dans le milieu associatif et humanitaire et que je suis un petit peu arrivée au bout de ce que je pouvais faire. J'avais du mal à trouver ma place dans ce milieu. Et j'ai un peu voyagé dans l'associatif en Inde et après j'ai travaillé dans la recherche clinique à Garches en réanimation. Et c'est là que j'ai découvert de manière assez superficielle, au final je me rends compte aujourd'hui, le métier de médecin. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que j'ai eu envie de me lancer dans ces études.
En voyant les autres exercer, c'est ça qui vous a donné l'envie?
Oui, et après, comme moi j'étais technicienne de recherche clinique à l'époque, donc je travaillais vraiment au contact des médecins avec eux, puisque eux menaient une recherche en particulier en post-réanimation. Et j'avais la possibilité d'assister aux visites, par exemple, d'aller voir les patients. Et donc c'est comme ça qu'est née cette envie.
Voilà. Ça vous donnait plus de pouvoir, c'était pour ça, ou c'était une relation différente?
Ça me donnait en fait, ce que je trouvais assez fort, c'était la possibilité d'acquérir des compétences donc médicales, dans ce cas donc de soins, de pouvoir aider les autres et que ces compétences soient valables partout dans le monde, quelles que soient les barrières de la langue, de la culture, des origines.
Ça veut dire un sentiment d'utilité supérieur à ce que vous aviez dans la première formation que vous aviez acquise?
Oui, notamment parce que moi j'étais assez frustrée de ne pas parler de langue rare. Particulièrement, ça peut paraître anodin comme ça, mais dans le milieu associatif et humanitaire, ça peut être utile de parler certaines langues pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller sur le terrain. Et moi, c'était pas mon cas, c'est pas du tout mon fort. Donc, par exemple, j'ai un master de sociologie. Et à cette époque, j'étais bénévole chez Médecins du Monde sur une mission qui aide les femmes chinoises qui se prostituent à Paris, le Lotus Bus. Et moi, je faisais de la prévention et je conduisais le camion, mais je pouvais pas échanger avec les femmes puisque j'étais pas sinophone.
Voilà. En fait, c'était pour une frustration et vous vouliez dépasser cette frustration.
Exactement.
Même question pour vous, Franck Roland. Pourquoi avoir voulu devenir médecin?
Quand j'étais plus jeune, notamment au lycée ou au collège, souvent on nous demandait sur une petite fiche lors des premiers cours, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et j'avais toujours énormément d'idées, je voulais faire plein de choses. Et puis finalement, médecine, c'est arrivé assez tard. Alors qu'initialement, je voulais faire de la comédie pour finalement être auprès des gens et puis les aider à oublier un petit peu leur quotidien. J'ai suivi un de mes meilleurs amis qui tentait médecine pour la première année. J'ai échoué à la première année à très peu de places et entre mes deux premières années, j'ai pu travailler en tant qu'aide-soignant, comme pour essayer de tester finalement cette envie qui était née un peu tard de faire de la médecine. Et c'est finalement au contact des gens traversé par une certaine maladie, par une certaine souffrance, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'être là pour aider les gens.
Et vous, docteur Asmaou Diallo, les raisons justement de votre engagement, de votre vocation ?
Moi, personnellement, je l'avoue, au début de mes études, je ne me voyais pas médecin. Je n'ai pas pensé au début de faire la médecine. Je voulais plutôt faire les mathématiques, la chimie, la physique. C'est ce que j'aimais plus. Et j'entendais souvent les gens dire que c'était plutôt difficile pour les femmes. Donc, du coup, moi, je disais pourquoi je ne ferais pas partie de ces femmes qui vont relever ces défis. Et après, c'est au collège, j'ai eu un frère qui était malade, qui faisait des crises épileptiques. Et je le voyais quand il faisait ses crises et tout ça. C'est de là qu'est venue l'idée de la médecine. J'ai commencé un peu à réfléchir par rapport à la médecine. Et au lycée, il est décédé quand j'étais au lycée, et sans autant savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il avait en fait comme diagnostic et tout ça. Et c'est là que j'ai pris la décision, j'ai dit pourquoi je ne vais pas faire la médecine, que lui, autant que lui, il est décédé sans savoir pourquoi il était décédé, mais probablement pour aider quelqu'un d'autre qui aura le même souci que lui. Donc du coup, c'est à partir de là que je...
Vous nous dites votre frère était épileptique, il ne le savait pas, ça veut dire que c'est vous, en étudiant, vous avez compris,
oui,
vous avez identifié, diagnostiqué ce mal dont il souffrait.
Oui, si vous voulez, c'est un diagnostic rétrospectif maintenant, parce que vu que j'ai évolué dans la médecine, je voyais un peu ce qu'il faisait comme crise, et du coup, je me disais que oui, qu'il faisait des crises épileptiques, donc en ce moment, on ne savait pas trop. Et je voyais que j'avais besoin de rester à côté, d'aider les gens qui vont avoir le même mal qu'il a eu.
Est-ce que justement, s'engager sur ce terrain, ça a permis d'une certaine manière de soulager votre chagrin ?
Je dirais oui.
Marie Cuzin, vous avez un parcours différent. La question sera forcément différente avec vous, puisque ce ne sont pas dans des études de médecine, mais d'infirmière que vous êtes aujourd'hui engagée, alors que vous aviez réussi la redoutable première année. Comment expliquer, on ne va pas dire un abandon, hein, mais cette réorientation, ce changement dans votre vie par rapport à vos projets initiaux ?
Alors, moi, j'ai voulu faire médecine... à la base, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. Et puis, après, j'ai fait connaissance avec l'être humain. J'ai eu un rapport particulier aussi avec la maladie qui m'a en fait donné la passion pour la biologie humaine et la pathologie. Du coup, je me suis plutôt orientée là-dedans parce que je m'y intéressais de manière très scientifique et clinique. Et puis... une fois que j'ai dit que je voulais être médecin, ma famille m'a un peu mis des œillères pour que je continue à tout prix dans cette filière. J'étais un peu la seule de ma famille à vouloir me diriger vers des études scientifiques et qui plus est médicales. Et donc j'étais un peu le petit prodige qu'il fallait surtout conserver. Et donc on m'a dit fais médecine, tu feras médecin. Et on m'a surtout pas ouvert les yeux sur la difficulté et la réalité de ces études et du métier. Du coup, je me suis un peu lancée là-dedans. Donc, moi, à la base, je suis très littéraire, mais j'ai fait un bac S parce que, pour faire médecine, il faut faire des études
scientifiques,
il faut avoir des bonnes notes, tout ça. Donc, je me suis un peu plongée corps et âme contre mon libre arbitre et mes envies, vraiment. Je me suis un peu oubliée dans les sciences et dans le travail. J'ai passé ma première année, pareil, je l'ai redoublée, mais la première année s'est assez bien passée au niveau des notes et du classement, donc c'était assez motivant. Et en fait, arrivé après cette première année, je me suis rendu compte que, je me suis rendu compte de la réalité des études de médecine et du métier de médecin.
Mais qu'est-ce qui vous a rebuté justement ?
Et ben voilà, c'est cette réalité de devoir passer en fait ces journées à travailler. Alors pour moi, c'était ça en fait. Si je voulais réussir mes études et si je voulais plus tard faire un bon médecin, il fallait vraiment que je laisse toute ma vie privée en fait de côté et que ma vie
être dans un tunnel en quelque sorte.
C'est ça. La vie professionnelle prend toute la place. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est que mes études, en fait, je travaillais du matin au soir. Et si je voulais avoir des bonnes notes au partiel et bien comprendre mes cours et avoir des connaissances qui tiennent la route, il fallait que je m'abandonne complètement à mon travail. Sauf que j'ai plein d'autres passions dans la vie et du coup, j'ai choisi autre chose. Je me suis rendu compte que pour moi, la vocation, c'était d'être soignant avant tout et pas forcément médecin. Et donc en fait le métier d'infirmière me convient beaucoup mieux parce que ça me permet d'être auprès des gens, d'avoir des connaissances quand même techniques et une pratique clinique, mais tout en respectant un rythme de vie un peu plus adéquat.
Ce qui peut paraître étonnant, c'est que ces études de médecine, en général, c'est une dizaine d'années, on va dire, et on parle beaucoup, énormément et quasiment exclusivement de la première année, cette fameuse année couperet. Franck Rolland, pour vous aussi, ça a été quelque chose de quasi insurmontable ou finalement c'est pas si énorme qu'on veut bien le dire et le lire?
La première année de médecine, ça a été c'est souvent celle qu'on identifie comme la plus dure, puisque effectivement 15% seulement seront amenés à poursuivre des études de médecine, et il y a c'est une année de bachotage et de gavage de connaissances. Le concept, c'est pas tellement de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre, mais vraiment de retenir un maximum pour cocher la bonne case. Une case près peut suffire à
puisque c'est échouer. Des QCM précisément, hein, ce sont des
absolument.
Cases qu'on remplit lors de ce concours. Par exemple, en région parisienne, c'est un grand hangar, des milliers de jeunes réunis. Et puis on peut dire, hein, c'est quand on lit les descriptions, on voit pas le soignant, on voit pas la main tendue à l'autre et la connaissance. On voit vraiment bête à concours.
Absolument. C'est vraiment une année qui sert à sélectionner, mais pas forcément sur des critères humains. Et finalement, quand on est sorti de là, on a sélectionné des gens qui étaient capables d'engranger beaucoup de travail, comme le disait Marie, finalement, et fait d'être des bons candidats à pouvoir se travailler comme ça pendant toutes leurs études, mais pas forcément des gens qui ont un relationnel important. J'avais par exemple mon meilleur ami qui, depuis ses 9 ans, voulait faire neurochirurgien, c'était sa passion, et finalement, il était très brillant, bac S, mention très bien, tous les enseignants du lycée lui disaient « mais oui, tu y arriveras, aucun problème », et quand moi je passais après, qui avait aussi un profil un peu plus littéraire et des difficultés en mathématiques, on me disait « t'es sûr, médecine, c'est peut-être pas pour toi », etc. Finalement, bilan des courses, moi je suis passé, lui malheureusement a eu plusieurs soucis qui fait qu'il n'a pas réussi au bout de 3 essais la première année.
Force psychologique en quelque sorte, qui fait aussi la différence?
Je sais pas si c'est de la psychologie
résistance,
ou de l'abnégation.
C'est ça.
Tout à fait. Toujours est-il qu'aujourd'hui il s'est reconverti, il est très heureux dans ce qu'il fait. Et ensuite, la première année, c'est quelque chose, mais finalement, il y a tout le reste derrière. La confrontation, finalement, avec l'hôpital, avec la mort, avec l'autre, au sens large, qui est pas forcément évidente. On sait aujourd'hui qu'il y aurait environ 20% des étudiants en médecine qui ont réussi la première année de médecine, qui arrêtent, qui abandonnent leurs études.
Oui, mais là, c'est pour le corps du métier. C'est parce que, finalement, la réalité ou les attentes ne correspondent pas à leur imaginaire et que c'est dur. Et que le métier est dur.
Et que, d'autant plus que les concours ne s'arrêtent pas là. En 6e année, par exemple, à l'issue de la 6e année, il y a un grand concours qu'on appelle les épreuves classantes nationales ou examens classants national, qui, pareil, est une série de QCM, qui se prépare sur 3 à 6 ans. Et qui vise, sous forme d'un classement au mérite, à attribuer à chacun une spécialité et à un lieu d'exercice. Et donc, évidemment, il y a une espèce d'engrenage qui fait que si vous n'êtes pas dans les 1000-2000 premiers, vous ne pourrez pas choisir la spécialité que vous voudriez. Et selon le credo, vous finiriez médecin généraliste, alors que la médecine générale est une excellente spécialité.
Alors, on va revenir sur la première année, notamment avec ce qui se prépare peut-être à la fin du redoublement en première année. Mais on va donner tout de suite la parole à un auditeur.
Musique. Priorité santé sur RFI.
Et cet auditeur, c'est Abdallah, il nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Abdallah.
Et bonjour Priorité santé, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous êtes étudiant en médecine en troisième année.
Oui, effectivement madame.
Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, comment vous avez pris cette décision de vous engager dans cette voie. Est-ce que vous pouvez parler d'une véritable vocation?
Oui, ce qui m'a motivé à faire la médecine, c'est ma mère parce qu'elle tombe souvent malade et toujours alitée. Le seul médecin hématologue qu'il y a en place est difficile à rencontrer. Il faut des jours et des semaines, voire des mois pour accéder. Après le bac, j'ai opté à faire la médecine pour aider tous les mamans qui souffrent par manque de médecins. Mais là, je me suis rencontré à une difficulté à l'accès de la faculté de médecine. Parce que les places sont limitées et les critères d'admission sont géopolitisés. Il faut être meilleur des meilleurs de votre région pour être admis. Pour cela, j'ai tenté 4 fois avant d'obtenir, mais je suis enseignant de sciences de formation. C'est ça mon parcours.
Mais maintenant, vous êtes engagé. Vous pourrez justement recevoir vos premiers patients dans combien de temps? Ce cursus, il est sur combien d'années au Tchad?
Au Tchad, pour être médecin généraliste, il faut 8 ans sans avoir repris une salle.
Et par contre, votre engagement, il est clair. Quand vous aurez justement votre diplôme en poche, vous exercerez au Tchad. Pas question de partir pour vous.
Oui, effectivement.
Merci infiniment Abdallah du Tchad de N'Djamena pour ce témoignage. Docteur Asmaou Diallo, on peut dire il y a un point commun, c'est aussi la famille qui a poussé à cet engagement, être là pour répondre à des questions. Il n'y a pas eu forcément la possibilité pour votre frère d'avoir le bon conseil, de voir un neurologue chez vous en Guinée. C'est quelque chose d'important. Vous aussi, vous retournerez exercer en Guinée?
Ah oui, bien sûr, je compte me retourner pour exercer, pour aider les gens qui continuent à souffrir. Même si, bien sûr, tout de suite, on n'a pas tous les moyens pour bien les aider comme il le faut, mais on espère un jour qu'on aura les moyens. Donc, c'est ce qui fait que je m'engage, je continue à lutter, j'essaye de faire le maximum possible pour vraiment subvenir à ces besoins des gens qui continuent toujours à être pris en charge de façon qui n'est pas tout à fait comme on prend en charge les patients dans les autres pays, mais un jour on y arrivera.
L'accueil à l'hôpital en France, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez encore, vous êtes au bout du parcours, hein. Bientôt ce sera, vous serez professionnel, vous serez médecin. Mmh. Comment s'est passé cet accueil, par exemple, avec les autres étudiants en médecine?
Je dirais que oui, je suis là depuis novembre 2015. Je suis venue dans le cadre de diplôme de formation médicale spécialisée, qui est un diplôme qu'il faut, qui est organisé en fait pour tous les médecins étrangers. Il faut déposer des dossiers. Un premier dossier où ils vont faire une présélection et après un deuxième dossier où ils vont faire le choix par rapport au poste disponible et à l'université.
En quelques mots, l'accueil humain des autres, ça se passe bien?
Oui, je suis venue. Pour moi, ça se passait bien. C'était pas du tout difficile au début. J'ai pas eu de problème par rapport à l'accueil humain. Et ça se passait bien. Je suis venue. J'étais logée. Mais à la fin de la première année, je devais changer d'hôpital pour quitter Corbeil-Essonnes, venir à la Salpêtrière. C'était un peu compliqué pour tout ce qui est problème de renouvellement de papier, de trouver des logements à Paris. C'est vrai que là, c'était un peu compliqué.
Les casse-têtes administratifs, les auditeurs en parlent très souvent. On se retrouve, docteur Asmaou Diallo, Sarah Gaston-Dreyfus, Marie Cuisin, Franck Roland. Vous restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler avec vous, étudiants et étudiantes en médecine et pour devenir infirmière. Vous pouvez continuer à nous appeler, le numéro de l'émission c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour la deuxième partie de Priorité Santé consacrée aux études de médecine. On a parlé des choix de cette première année très difficile et on retrouve nos invités en studio. Eux ont passé le cap où ils ont choisi une autre orientation. On retrouve Sarah Gaston-Dreyfus, étudiante en 5e année à l'université Paris Sud 2011, Marie Cuisin, étudiante en première année d'école d'infirmière, docteur Asmaou Diallo, interne au service des explorations fonctionnelles au centre hospitalier de Gonesse dans le Val d'Oise, et Franck Roland, étudiant en sixième année de médecine, lui aussi à l'université Paris-Sud. Franck Roland, il y a un changement qui se profile pour l'année prochaine dans un certain nombre de facs de médecine, 4 à Paris, Lille, Brest aussi, c'est la fin du redoublement. Vous-même, vous avez redoublé, vous en pensez quoi de cette fin du redoublement qui a été décidée par des doyens et qui pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine?
En fait, effectivement, j'ai redoublé à très peu de choses près, et c'est vrai que ce redoublement, quelque part, m'a été profitable parce que j'ai pu expérimenter le métier d'aide-soignant, notamment pour me conforter dans mon idée de suivre médecine. Le fait est que en PACES actuellement, le dogme presque, c'est de se dire qu'il faut 2 ans pour réussir PACES. Pourquoi? Eh bien, parce que en fait, sur un échantillon de 100 personnes qui vont en PACES, par exemple, vous en avez peut-être 5 qui vont réussir du premier coup, et puis 10 qui vont réussir du deuxième coup, parce que ça sera leur deuxième PACES. Et de fait, ceux qui seront recalés, la majorité qui sont les premières calées après le dernier prix dans le classement, vont finalement se représenter l'an prochain, et puis ainsi de suite, ce qui fait qu'il y a une espèce de phénomène de file d'attente. Si c'est pas cette année, bah vous redoublez et puis vous passez ensuite.
Les doyens me parlent même d'un certain gâchis, puisqu'en fait ces 2 années ne sont pas validées.
Tout à fait, c'est-à-dire que la file d'attente, elle est telle qu'elle est, mais si vous êtes redoublant et que malheureusement le dernier prix était juste avant vous, vous vous retrouvez à avoir fait 2 années de PACES qui, entre guillemets, ne vous servent à rien puisque elles ne vous permettent pas d'aller ailleurs. Dans certains cas, il y a quelques équivalences pour pouvoir rentrer en deuxième année de licence, c'est tout.
On va pas être trop technique, mais sur le plan de l'égalité des chances, certaines critiques disent ceux qui vont finalement réussir dès la première année, puisqu'il n'y aura pas de redoublement, ce sont ceux qui auront suivi des cours privés. Donc des gens plus à l'aise financièrement, et déjà que les études de médecine, on ne peut pas dire qu'il y a un grand brassage social, et bien là ce sera encore moins.
Alors c'est un risque, absolument, et c'est pourquoi il y a des initiatives notamment étudiantes comme les tutorats qui sont là justement pour essayer d'endiguer ce phénomène. Il y a même certaines universités où les initiatives étudiantes ont tellement supplanté les prépas privés que finalement les prépas privés ont fermé. Donc je pense que y a un accompagnement psychologique à faire. Il y a effectivement une réflexion par rapport à pouvoir passer par une licence d'un tout autre domaine et de suivre des enseignements qui permettent ensuite de rejoindre les études de médecine comme les systèmes d'alterpacès.
Et vous, à titre personnel, vous êtes pour ou contre la fin de ce redoublement?
Moi, à titre personnel, je pense que le redoublement, c'est pas une deuxième chance. C'est juste un phénomène de file d'attente, et que donc du coup, oui, je pense qu'il faut essayer de s'organiser vers quelque chose comme ça, parce que ça permet vraiment de brasser l'origine des étudiants qui font médecine. Si on peut avoir des gens qui ont fait une licence, je sais pas moi, de lettres, de philo, de psycho, de choses comme ça.
Ce qui compte pas finalement, c'est pas d'arrêter le redoublement, mais c'est d'ouvrir d'autres voies d'accès.
Tout à fait, et d'offrir une vraie deuxième chance aux étudiants.
Ce que vous avez eu en fait, hein, Sarah Gaston-Dreyfus, vous n'êtes pas arrivé par le chemin habituel. Et c'est quelque chose, d'après vous, qui permet d'avoir une vision, une approche différente de la profession ?
Oui, tout à fait. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Déjà, si j'avais eu envie de faire médecine après le bac, c'est sûr que d'après moi, j'aurais pas réussi la P1, et je pense que j'aurais vraiment perdu des plumes parce que ça correspond pas du tout à qui je suis, cette manière de travailler et la pression qu'on impose aux étudiants en première année. Et moi, j'ai pris cette passerelle comme une opportunité aussi d'arriver avec un parcours différent, une maturité aussi différente, puisque la passerelle que j'ai faite s'adresse uniquement à des gens qui ont déjà validé un bac plus 5.
On peut dire que des fois, 17 pour certains, parce que souvent ce sont des élèves brillants, 18 ans, c'est peut-être un peu jeune pour être plongé dans le bain. Manque de maturité qui fait aussi que c'est pas facile. Peut-être que Marie Cuisin, peut-être que c'était aussi une des raisons de votre renoncement. C'est dur, non seulement ce rabâchage, cette espèce d'abattage de savoir, de connaissances à ingurgiter, il le raconte comme ça. Et puis aussi, tout ce qui nous attend après. Même si quand on est infirmière, on est confronté bien évidemment aux mêmes rencontres, aux mêmes défis, mais sur un autre mode. Est-ce que, d'après vous, il y a une question de maturité? C'est pas du tout dévalorisant, hein, la jeunesse, c'est pas du tout un défaut, loin de là. Mais est-ce qu'il y a un problème de maturité?
Je sais pas si c'est un problème de maturité. En tout cas, c'est vrai que les étudiants en médecine aujourd'hui, j'ai pu le remarquer autour de moi, ont peu d'ouverture sur le monde parce qu'en fait, ils passent leur temps à travailler pour leurs études parce que c'est énormément prenant. Et du coup, c'est vrai que s'engager dans le milieu associatif comme je l'ai fait, c'est très péjoratif pour l'apprentissage des cours parce que ça laisse beaucoup moins de temps pour bosser ses cours et les apprendre par cœur. Donc en fait, quand on est en médecine, on a cette tendance à se focaliser sur les études, sur le métier, à rester entre nous et à pas trop s'ouvrir sur l'extérieur. Donc de manière générale, certes, quand on arrive à 17-18 ans en post-bac et qu'on nous demande « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?», c'est extrêmement dur de répondre. En plus, il y a un certain tabou autour de ces études qui cache vraiment la réalité et qui en fait la réalité des études et la difficulté du parcours est méconnue. Du coup, on a tendance à se jeter dedans sans trop savoir où est-ce qu'on va. Et c'est vrai que tout au long de nos études, on va rester un peu immature avec des grands guillemets bien sûr, mais on n'est pas très très amené à s'ouvrir sur les gens qui nous entourent.
En tout cas, la profession, elle change, hein, le profil de la profession en termes notamment de sexe. Je voulais vous donner la parole sur ce sujet. Docteur Asmaou Diallo, il y a de plus en plus de femmes, surtout de jeunes femmes médecins en France. Hein, c'est ce qu'on voit aux inscriptions à l'Ordre des médecins. En Afrique, on a l'occasion d'avoir souvent vos confrères en ligne dans Priorité Santé. Peu de femmes, de plus en plus peut-être, mais peu de femmes médecins, encore moins de femmes professeurs. Est-ce que vous avez un regard sur cette question, sur la féminisation de la profession en Afrique ?
Oui, je dirais que ça peut être lié à beaucoup de choses parce que c'est pas le même système de vie, il y a tout ça. Il y a pour beaucoup de gens, quand on est une femme, viser un cursus où tu vas faire beaucoup d'années d'études, c'est un peu compliqué parce qu'après le mariage, c'est pas le même système, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas du tout le même regard avec ici, c'est différent, donc ça pourrait s'expliquer. Mais moi,
vous avez pu avoir une vie de famille, une vie de femme tout en étant médecin?
Oui, c'est vrai, c'est compliqué. C'est ce que disent beaucoup de gens que j'ai eu la chance, que je dis aussi toujours, parce que je me suis mariée quand j'étais à l'université. J'étais en deuxième année université, donc j'étais tout au début de mes études de médecine. Et j'ai eu mon premier enfant quand j'étais en quatrième année de médecine, j'étais encore à l'université. C'est vrai que c'est pas facile, mais si tu as des soutiens, des aides de parents et surtout de ton mari et que vous avez la même vision et qu'ils acceptent les objectifs que vous vous êtes fixés avant le mariage, parce que c'est quelque chose qui se discute, c'est pas tout à fait facile chez les Africains, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais j'ai envie de dire que les femmes aussi peuvent aller aussi loin que les hommes. Si on a bien sûr du soutien, même après le mariage ne nous empêche pas d'avancer loin, les enfants non plus. Il suffit juste d'avoir du soutien à côté et on pourra y arriver.
Sarah Gaston Dreyfus, vous ne pouvez pas dire le contraire puisque vous aussi, vous êtes étudiante en médecine et maman.
Tout à fait.
On peut faire des études compliquées tout en ayant une vie.
Oui, et après c'est compliqué.
Voilà.
C'est-à-dire que moi, je suis rentrée en deuxième année directement après la passerelle. J'avais 26 ans et je suis tombée enceinte durant ma première troisième année, puisque donc j'ai redoublé ma troisième année. Et que donc forcément, ça nécessite quand même de s'organiser, que les priorités changent et que c'est sûr que pour moi, la priorité, si je dois hiérarchiser, n'est pas la médecine. Mais c'est ma vie privée, forcément.
On a beaucoup parlé de sélection tout à l'heure, justement de profils, parce qu'ici, on peut dire qu'on a des profils un petit peu atypiques autour de cette table. Hein. C'est peut-être ça aussi qui fait la richesse de la conversation. Des profils très techniques, d'autant plus que être médecin aujourd'hui, c'est de plus en plus technique. Et on entend souvent dire tout ça, c'est au détriment peut-être de personnalités altruistes qui ont vraiment un contact. Est-ce que d'après vous, c'est une fausse idée, Franck Rolland, ou c'est quelque chose de réel ?
Je pense qu'il y a effectivement une tendance en médecine en général vers la sophistication, la technologisation, la technicité du métier. Et comme toute tendance, il y a une contre-tendance. Moi, par exemple, j'ai effectivement été frappé par le caractère très dogmatique de l'enseignement, très pointu sur toutes les techniques médicales et sur la lacune en termes de sciences humaines, de relations avec le patient, d'apprentissage, de finalement comment communiquer avec.
Alors que avec c'est une vraie tendance de la médecine avec la montée en puissance des universités, des patients, de
absolument.
L'expertise du patient, même dans de nombreuses spécialités, des groupes de parole, la présence des familles très importante. Est-ce que les études suivent ?
Alors, pour l'instant, il y a encore que de très timides expérimentations de patients experts qui interviennent pendant les cours et encore plus timides dans le cursus, j'allais dire, de base de la première à la dernière année avant d'être docteur en médecine. Mais de plus en plus, les étudiants se mobilisent, tels que moi, j'ai créé une association, par exemple, à la faculté de médecine de Bicêtre qui visait justement à faire discuter les étudiants autour de tous ces sujets. Et dans le fil de cette lignée, j'ai aussi suivi un master d'éthique à l'espace éthique d'Île-de-France qui m'a vraiment permis d'avoir un peu cette ouverture là qui manquait en médecine.
Sarah Gaston Dreyfus, vous vouliez réagir?
Oui, parce que je trouve que effectivement la manière dont sont organisées les études par rapport justement au travail qu'on demande, à l'exigence, à la pression qu'il y a à l'hôpital, je trouve inhibe beaucoup en fait justement ce travail qu'on pourrait faire autour du patient, au développement de la relation avec le patient, parce que je trouve que la majorité veut que les étudiants soient vraiment concentrés sur la technicité et non sur ce rapport-là, et que ça demande beaucoup d'énergie et que ça impose beaucoup de stress, et qu'au final il reste pas beaucoup de place en fait pour travailler sur ce relationnel-là et pour être vraiment impliqué dans ce relationnel-là.
Vous vouliez réagir, Marie Cuisin, votre tour.
Bah oui, du coup, pour conclure, moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me réorienter vers des études d'infirmière. C'est qu'on est beaucoup plus dans l'humain, dans le social. On garde un côté très technique dans notre profession, mais on est plus tourné vers la personne.
Même si actuellement, dans le grand débat sur l'hôpital, sur les cadences, sur l'arrêt de certaines équipes, il y a toute une remise en question, justement, du temps social, du temps humain. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience aujourd'hui, que peut-être la façon d'exercer, par exemple, le métier d'infirmière il y a 10 ans, c'est pas vraiment celui qu'on exerce aujourd'hui à l'hôpital?
Alors oui, on touche une problématique qui est d'actualité, qui est réelle. On a beaucoup moins de temps pour nos patients. On fait plus de du travail à la chaîne. Bien sûr, ça dépend des endroits, ça dépend des spécialités, mais c'est une réalité qui est assez générale. Certes, c'est de plus en plus difficile d'être un bon soignant et de prendre le temps de s'occuper de l'humain aujourd'hui, mais le métier d'infirmière s'en rapproche quand même le plus pour moi, et ça va être une lutte au quotidien dans la profession, c'est sûr.
Le temps passe vite, hein. Sixième année, ça va être bientôt la spécialisation pour vous, hein, Franck Roland, si je me suis pas trompée. Est-ce que vous avez déjà des vœux? Est-ce que vous savez quel médecin vous voudriez être? Parce que après, il y a le concours, hein, on l'a compris. Entre ce que vous voulez et le résultat, ce sera peut-être pas la même chose. Est-ce que vous savez vers quoi vous voulez aller?
Avant tout, je voudrais être un médecin humain, mais c'est pas évident.
Un médecin infirmière, on va dire, on va inventer un nouveau mot. Hein.
Non, disons que si je devais dire des spécialités, c'est vrai que par élimination de spécialités d'organes ou de spécialités qui sont pas en contact avec le malade et élimination de la chirurgie, ça me laisse médecine générale ou médecine interne. Et de temps en temps, la psychiatrie vient pointer le bout de son nez. Mais faut avoir l'esprit ouvert. Et puis lors du concours, une fois les résultats donnés, je ferai mon choix. Et je pense que dans tous les cas, je trouverai du plaisir à pratiquer cette profession.
En tout cas, Marie Cuisin, je peux vous dire, autour de ce plateau, on reçoit très souvent des médecins très humains, vraiment très humains. Sarah Gaston-Dreyfus, vous, c'est quoi votre choix? Est-ce que vous savez déjà vers quoi vous voulez aller?
Moi, pour le moment, je pense que je ferai de la médecine générale, déjà parce que ça rejoint aussi mes aspirations, mes premières aspirations quand je travaille dans le social, et que j'aime l'idée aussi d'être proche des gens et de pouvoir exercer son métier de plein de manières différentes. Aujourd'hui, on peut exercer dans un cabinet, on peut retravailler dans une association, une ONG, on peut travailler dans des maisons de santé. Mais il y a aussi un facteur qui rentre en jeu dans ma décision, parce que ça m'est arrivé d'avoir des espèces de coups de foudre pour des spécialités. Mais ce qui me freine beaucoup, c'est la vie que la carrière hospitalière impose. Et ça, j'en veux vraiment pas du tout. Je suis pas prête à ça.
Ouais. Et vous, docteur Asmaou Diallo, vous avez dit neurologie, vous avez parlé de ce qui est arrivé à votre frère. Pour vous, cette vocation, cette spécialisation, elle est directement liée à cette histoire familiale?
Je dirais non, parce qu'au début, je ne savais pas ce que souffrait mon frère était vraiment une pathologie neurologique. Donc, du coup, ce n'est pas tout de suite que j'ai eu l'idée de choisir la neuro. C'est surtout quand j'étais à l'université, j'ai commencé à faire mes cours de sémiologie. Je me disais que j'ai pensé au début faire pédiatrie. J'ai dit il faut être bien pour travailler avec des enfants qui ne savent pas dire qu'est-ce qu'ils les font mal. Donc, du coup, je me suis dit peut-être pédiatrie ou pourquoi pas cardio, parce que pour tout le monde, quand le cœur s'arrête, c'était quelque chose de très truc. J'ai dit, je veux être cardiologue. Et après, c'est ainsi que j'étais en train de choisir. La neuro n'était pas venue au début. Mais quand j'ai commencé de faire mes cours de sémiologie neurologique avec vraiment un bon professeur, donc quand il a commencé d'expliquer vraiment, j'ai eu l'envie, j'ai dit, je rêvais toujours faire la mathématique. Je voyais les raisonnements comme étaient, si c'était toujours mathématique devant moi, quand il a commencé de nous expliquer que le cerveau, on était croisé, que le cerveau droit commandait le corps gauche et tout ça, je disais que c'est génial. Donc, je me retrouve encore en mathématiques.
Ça correspondait à ce que c'est un prof qui vous a convaincu. J'ai une dernière question. En France, il y a une forme de défiance dans l'opinion. Il nous reste très peu de temps pour en parler. Peut-être que l'un d'entre vous autour de cette table voudra réagir. Le statut du médecin est gratiné, l'image abîmée. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut réagir sur cette question, Franck Roland.
Je pense que effectivement, il y a une méfiance parce que finalement, la relation médecin-malade, elle est asymétrique. On a souvent vu le médecin debout, le malade allongé, et de fait, il y a un renversement aujourd'hui parce que le patient reprend le pouvoir sur cette relation et remet de l'égalité. Du coup, on remet en question le pouvoir médical et il y a certains médecins qui ont encore du mal avec cette idée-là et d'autres qui sont très favorables à ça. Voilà, je pense qu'il y a une explication assez philosophique peut-être, mais qui est pratique dans cette idée.
Un changement de rapport de pouvoir.
Absolument.
Merci à toutes et à tous d'être venus pour parler de ces études en médecine. On l'a compris, c'est pas si simple. Bonne route à vous tous. On vous aura peut-être un jour derrière ce micro comme invité, non plus comme étudiant, mais bien comme médecin et comme infirmière. Merci à Sarah Gaston-Dreyfus, en cinquième année de médecine à l'université Paris Sud 11. Marie Cusin, étudiante en première année d'école d'infirmière. Franck Roland, sixième année à cette université Paris Sud. Et merci à vous, docteur Asmaou Diallo, interne en neurologie au centre hospitalier de Gonesse dans le Val d'Oise. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes un médecin sexologue, nos auditeurs vous connaissent bien. Et vous allez aujourd'hui nous parler d'un organe dont tout le monde connaît le nom, mais dont tout le monde ne réalise pas forcément l'importance dans la sexualité féminine. Il s'agit du clitoris. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le clitoris?
Alors le clitoris, c'est un organe tout petit qui est situé entre les petites lèvres du côté du pubis. Et il est caché par un capuchon qui est un repli de peau des petites lèvres. Et sous le capuchon, donc, on peut apercevoir un petit bout du clitoris qui s'appelle le gland du clitoris et qui ressemble beaucoup au gland du pénis, mais en plus petit. Et donc cette partie visible, ça ne représente qu'une toute petite partie du clitoris qui en fait ressemble beaucoup au pénis au niveau de la forme aussi. Il a donc des racines qui sont des corps érectiles et ces racines font environ 11 cm. Elles remontent vers l'os du pubis et elles y sont raccrochées.
Alors ce clitoris ressemble, on l'a entendu, au sexe masculin au niveau de sa forme, mais au niveau des sensations, hein, qu'est-ce qui est comparable?
Alors c'est certainement comparable les sensations qu'a une femme au niveau du gland du clitoris et au niveau un homme, disons, au niveau du gland du pénis. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes corpuscules de volupté à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on appelle les capteurs de plaisir. Donc les caresses, les contacts procurent les mêmes sensations à une femme que le gland du pénis, enfin sans doute parce que personne ne peut comparer vraiment. Et donc c'est important de le comprendre parce que le clitoris est très important pour le plaisir féminin. Si un couple fait l'amour sans toucher le clitoris, ben c'est un peu comme si un homme qui faisait l'amour en évitant de toucher au gland. du pénis. Et donc, pour un homme, c'est pas vraiment imaginable. Donc, il faut pas s'étonner qu'une femme n'ait pas d'orgasme si on laisse de côté sa zone érogène la plus puissante.
Mais pendant la relation sexuelle avec pénétration, c'est surtout l'intérieur du vagin qui est stimulé, pas vraiment le clitoris.
Exactement. Et ben, c'est bien le problème. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont des difficultés à obtenir un orgasme, beaucoup plus que les hommes pendant un rapport de pénétration. Si les hommes devaient arriver à avoir un orgasme sans toucher au gland du pénis, et ben, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient aussi des difficultés à avoir un orgasme.
Et qui seraient de sacrés acrobates. Donc, il faut expliquer bien aux hommes hein, que c'est très important de faire participer le clitoris au plaisir.
Voilà, exactement. Et j'insiste beaucoup parce que beaucoup d'hommes savent quand même que le clitoris, c'est important. Mais beaucoup le considèrent un peu comme un starter. Ils se disent pendant les préliminaires, il faut s'occuper du clitoris avant de passer aux choses sérieuses. Ben, c'est un petit peu comme si une femme disait, ben, je vais m'occuper un petit peu de caresser son sexe pour démarrer et ensuite je m'occupe d'autre chose, de choses sérieuses, je ne touche plus au pénis. Eh bien, il me semble que ça serait extrêmement frustrant pour un homme. Si je raconte ça, c'est pour que les hommes se mettent un peu à la place des femmes. Et il y a des hommes qui se disent, quand on fait l'amour, de temps en temps, je lui fais plaisir, je caresse plus longtemps son clitoris. Bah, si une femme se disait, quand on fait l'amour, de temps en temps, pour lui faire plaisir, je m'occupe de son pénis, on se dirait, mais c'est un peu bizarre.
Et justement, un docteur Solano, en consultation, vous êtes confronté à cette difficulté de bien faire comprendre la différence de fonctionnement entre hommes et femmes.
Ah oui, alors tout le temps, c'est très souvent qu'une femme vient me voir et elle me dit, Docteur Solano, j'ai besoin de vous, je vais vous amener mon homme et vous allez lui expliquer ce dont j'ai besoin. Parce que moi, j'essaye de lui expliquer, il ne comprend pas ou il ne me croit pas. Et par exemple, j'ai vu dernièrement une jeune femme qui me disait, bon, c'est vrai, il me fait des caresses au niveau du clitoris, mais un petit peu seulement, j'aurais besoin que ça dure bien plus longtemps. Donc j'ai dû expliquer à ce jeune homme qu'il fallait que ça dure plus longtemps, 20 minutes peut-être, peut-être même plus. Parfois, pour un premier orgasme, il faut une heure de caresse. C'est un chiffre très important à connaître. Après, ça diminue évidemment jusqu'à arriver à 3 minutes environ, mais au début, ça peut être très long. Donc je dis aux femmes, réclamez et aux hommes, écoutez votre partenaire. Parce que pour un homme, c'est souvent très important de donner du plaisir à sa partenaire. Et en plus, l'orgasme, c'est un phénomène qui crée un attachement puissant entre deux partenaires et qui soude le couple. C'est pas seulement une question de plaisir sexuel.
Alors, cette question, si la femme a été excisée, comment faire ?
Ben, quand une femme est excisée, on lui a enlevé une petite partie du clitoris, c'est la partie visible. Mais les racines de son clitoris sont toujours présentes et elles aussi contiennent des corpuscules de volupté, des capteurs de plaisir. Et donc, je montre à mes patientes excisées où ça se passe et donc il faut explorer les racines du clitoris et les stimuler, en fait, en faisant des pressions assez fortes. Donc, c'est ce que j'explique à mes patientes. Et donc, il faut placer la main au milieu de l'os du pubis, le plus bas possible, et là, vous sentez comme un petit tube vertical qui passe à cet endroit et appuyé assez fort. Et il y a beaucoup de femmes excisées qui réussissent à avoir des orgasmes de cette manière.
Et vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique du docteur Solano sur le site internet avec en plus des précisions comme par exemple comment caresser le clitoris. Les auditeurs de Priorité Santé posent leurs questions au docteur Catherine Solano, sexologue, qui est avec nous. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et c'est Guilin que nous avons en ligne de Mbandaka, en République démocratique du Congo. Bonjour Guilin.
Bonjour.
On vous écoute et le docteur Solano vous écoute.
Ouais, je me suis posé la question, docteur. J'ai un petit problème quand je suis en train de passer mon rapport sexuel. J'ai des difficultés à atteindre ma deuxième éjaculation. Alors j'avais appelé le docteur s'il pouvait m'aider, s'il s'est dit à quoi et que puis-je faire pour remédier à ces problèmes.
Docteur Solano, qu'est-ce que vous avez à dire à Guilin à ce sujet ?
Eh bien, ce que je peux vous dire, Guilin, c'est qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est normal. Parce qu'en fait, il y a un phénomène qu'on appelle la latence éjaculatoire. Ça veut dire que quand un homme vient d'avoir une première éjaculation, il ne peut pas tout de suite avoir une deuxième éjaculation. Il existe un temps pour que votre corps puisse, si on peut dire, recharger ses batteries. Et il faut savoir que ce temps augmente avec le nombre d'éjaculations et il augmente aussi avec le nombre des années.
Et ça veut dire que, par exemple, si une troisième opportunité se présentait, il pourrait y avoir exactement le même problème, à nouveau, difficulté à éjaculer.
Voilà, exactement. pour vous, c'est un problème parce que vous n'avez pas d'éjaculation précoce. Parce que chez les hommes qui ont une éjaculation précoce, la première éjaculation vient, mettons, au bout de 20 secondes. La deuxième va venir plus longtemps. Et donc, pour eux, c'est quelque chose de bénéfique. Et donc, des fois, ils ont même une troisième rapport parce que la deuxième fois, ça va durer 30 secondes ou une minute. Et enfin, la troisième, ça va durer, je sais pas moi, 5 ou 10 minutes. Et donc, c'est normal. Donc, ces gens-là ont tendance à répéter les rapports sexuels. Et plus ça va, plus c'est long à venir. Et vous, si c'est déjà trop long la deuxième fois, ben c'est parce que la première fois, vous n'avez pas ce problème d'éjaculation précoce.
Et docteur Solano, dans quelle mesure tout ça change avec l'âge?
Ça change avec l'âge parce que quand on est très jeune, on a 18 ans, par exemple, la deuxième éjaculation va être plus facile. Alors que petit à petit, avec les années, ce temps de latence éjaculatoire, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre deux éjaculations, ça augmente de plus en plus avec les années.
Alors là, on a compris ce qui se passe pour Guylain. Pour un conseil maintenant, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Eh ben, vous pouvez pas faire grand chose parce que de toute façon, votre deuxième éjaculation, elle sera toujours beaucoup plus longue. En revanche, ce qu'on conseille, c'est de faire durer plus longtemps la première fois. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir un rapport sexuel la première fois sans aller jusqu'à l'éjaculation. C'est-à-dire, à un moment, arrêtez, vous retirez et recommencez à faire des câlins, des préliminaires et des caresses. Donc faire une pause et recommencer une pénétration. Et à ce moment-là, la deuxième fois, vous allez aller jusqu'à l'éjaculation. Et tous les hommes sont obligés d'apprendre ça s'ils veulent faire durer le plaisir au fil des années. Parce que ça sera de plus en plus long.
Voilà, Guylain, pour cette réponse du docteur Solano. Et merci beaucoup pour cet appel de Mbandaka. Bonne journée. Priorité santé, c'est fini. Demain, reportage d'Igor Strauss à l'occasion de la conférence de Rabat sur les soins en Afrique. À demain.
C'était Priorité santé avec Sounou Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.